Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Prototype, votre émission dédiée au proto-métal et rock obscur sur le 99.2 de Radio Méga. Vous pourrez retrouver ce 28e épisode et tous les autres dans nos émissions spéciales en podcast sur radio-mega.com. Vous avez remarqué que notre intro habituelle sonnait particulièrement mauvais, c'est tout simplement parce qu'elle est issue d'une session organisée par John Peel, ce célèbre disque jockey anglais de la BBC, enregistrée tout juste après la sortie du premier album de Black Sabbath, le 26 avril 1970, afin de les faire connaître auprès du grand public. Et ce n'est pas pour rien que nous avons baissé la qualité sonore pour cette émission, car celle-ci est dédiée à tous ces enregistrements obscurs et dégueulasses, de groupes tout aussi obscurs et malpropres. Quoi de mieux que de commencer notre émission spéciale « Morceaux enregistrés dans une cave » par un clin d'œil à notre premier épisode que seuls les plus anciens reconnaîtront. J'ai nommé Hashish d'un certain Eve, un groupe du début des années 70 originaire du Royaume-Uni et resté inconnu. Ce morceau introductif de Hashish vous donne la couleur de ce que sera le reste de notre émission. Du gras de mauvaise qualité transpirant l'amateurisme tant sur l'interprétation qu'à la production, les deux allant souvent de pair. Quelques années plus tard et toujours au Royaume-Uni, un certain claviériste du nom de Ivan Coutts quitte les Blacksmiths, un groupe de hard rock duquel il se sentait de plus en plus musicalement détaché. En effet, après avoir pondu tout de Devil's Daughter pour le reste du groupe, ce dernier souhaite s'orienter vers de la musique moins lourde au détriment de ce cher Ivan qui n'en a que faire de ses quadripop. Pop. Qu'à cela ne tienne, il quitte les Blacksmiths et trouve de nouveaux acolytes pour son nouveau projet, Warlord. Se joignent ainsi à lui Richard Roffey au chant, John Alexander à la guitare, Andy Dunlop à la basse et Paul Cantwell à la batterie. La synergie entre les cinq musiciens est immédiate. Ils commencent à jouer en live et se font tout de suite comparer à Black Sabbath ou Black Widow, ce dernier étant littéralement composé de rockers satanistes. Notre quintette est même surpris de ces comparaisons, tous végétariens et ne cherchant pas à s'assagir, ils envoient balader différents labels voulant les signer. Un album se prépare en parallèle et Warlord enregistre diverses bandes démos, les premières au Escape Studios dans le Kent en 1975. Voici tout de suite Face of the Sun, issu de ses enregistrements.
Thank you. take my brothers under the whispering cotton rain. We found what we're searching for, and the journey living in vain. Isn't there anybody out there, someone to call that name?
Ivan Kutz et Richard Roffey se partagent le chant au fil des morceaux. Face of the Sun est chanté par Ivan. Nous vous proposons donc Warlord, où Richard prend la relève avec une prestation très limite, mais dont l'instrumentalisation est à la hauteur. Sûrement pour son ami de longue date que Ivan n'ose pas dire la vérité à Richard. C'est un homme torturé et instable, qui refuse même de venir jouer lors d'un festival en plein air, et le reste du groupe est obligé de se relayer pour assurer le chant en son absence. Les choses se dégradent au fil des sessions d'enregistrement de leur album, dû au stress et dû à l'engouement médiatique qui les entoure. Ils essaient de rester fidèles à leur style et à leur philosophie musicale malgré la pression du label et des fans. L'ambiance au studio est paranoïaque. On suspecte que quelqu'un change les paroles dans la rébotique, un mec étrange de l'armée du salut les fixe par la fenêtre, et quelqu'un ose même suggérer de faire une version raccourcie de leur titre Warlord. C'en est trop pour Ivan et Richard qui quittent le groupe, et tout dégénère par la suite. Ils se font insulter par la presse locale et le public, se faisant traiter de lâches. Ils reçoivent même des menaces de mort chez eux. Le reste du trio se renomme brièvement Stallion, jusqu'à ce que le guitariste, John Alexander, se blesse avec une scie circulaire et perde l'usage de sa main gauche, ce qui met définitivement fin à l'aventure et chacun se sépare pour différents projets. C'était la brève histoire de Warlord que vous pourrez retrouver dans la compilation du même nom sortie en 2002, reprenant les enregistrements de 1974 à 1977 et dont les deux précédents titres sont issus. Vous y retrouverez des morceaux tels que le diabolique Devil Drink, ou encore Wild Africa, avec le chant abominable de Richard. On va plutôt vous passer Lady Killer, ou tueur de femmes en français, avec Ivan et Rich, qui se partagent une dernière fois le micro. Yeah. Notre prochain titre est issu de Bedemon, un projet doom metal lancé en 1973 par le guitariste Randy Palmer. Il recrute deux amis, Bobby Liebling au chant et Geoff O'Keefe, qui viennent tout juste de fonder le futur Pentagram. Le bassiste, Mike Matthews, vient compléter la formation. Je parle bien de projet, plus que de groupe, car celui-ci servait à Randy à faire partager et à enregistrer ses compositions. Plusieurs sessions ont lieu pendant toute la décennie 1970, ce qui permet aux musiciens de Pentagram de se professionnaliser tant sur la composition que l'interprétation des morceaux pour devenir un acteur majeur du doom et du heavy. Quelques enregistrements ont lieu en 1986, néanmoins sans la présence de Palmer pour ensuite tomber à l'abandon pendant près de 15 ans. C'est en 2001 que le journaliste et guitariste Perry Grayson réussit à prendre contact avec Palmer et le duo de Pentagram pour leur soumettre l'idée de reformer Bedemon et d'enregistrer de nouvelles musiques. Les agendas se libèrent en 2002 et les premières pistes sont complétées en studio quand Palmer est soudainement victime d'un accident de voiture qui lui coûte la vie à seulement 49 ans. Liebling et O'Keefe mettent pas loin de 10 ans pour se remettre du décès de leur ami avant de compléter les musiques et de sortir un nouvel album en 2012 sous le nom de Symphony of Shadows. Ce dernier reçoit un accueil critique restreint, mais très positif. Voici ce qui conclut notre court chapitre sur Bedemon. Pour enfin vous passer deux morceaux de ses précurseurs du doom, Through the Gates of Hell et Child of Darkness, tirés de leur compilation sortie en 2005 qui reprend les sessions de 1973, 1974 et 1978 dans un seul CT de 15 titres. C'est un must listen si vous êtes fan de doom à l'ancienne.
Thank you.
Toujours sur le 99.2 de Radio Méga, dans votre émission spéciale de prototype dédiée aux enregistrements foireux et dégueulasses du proto-metal des années 70. Nous venons d'écouter Through the Gate of Hell et Child of Darkness de Bedemon. Retournons quelques années en arrière avec Wicked Lady. Ce trio britannique actif dès 1968 connaît de forts rebondissements dans sa courte carrière de 4 ans. Déjà, les musiciens sont contre l'enregistrement studio, qui à leur goût dénature toute leur musique, qui doit se jouer en live et très fort. Ils jouent surtout dans les bars et se forment progressivement un public, surtout composé de bikers qui les suivent de bar en bar. Leurs shows sauvages s'accompagnent d'interminables jams où les Larsen sont tellement puissants qu'ils se font parfois couper le courant. Ça dégénère tellement qu'un soir, une bagarre éclate entre les bikers et le voisinage d'un bar où Wicked Lady jouait, la police est obligée d'intervenir et le bar perd même son autorisation d'organiser des concerts. Le groupe se convainc néanmoins d'enregistrer leurs chansons dans le sous-sol où ils jouaient habituellement, mais sans les publier. Ce n'est qu'au début des années 90 que sortent deux albums posthumes de Wicked Lady, The Axemen Cometh et Psychotic Overkill, réédités plusieurs fois depuis et parfaitement trouvables en écoute sur Internet. Je vous propose deux morceaux, chacun tiré d'un album, et qui vous donneront une idée du proto-punk qu'était Wicked Lady, et que je vous laisserai découvrir de votre côté. Voici Run the Night et I'm a Freak.
There in the darkness,
petit détour rapide vers les Écossais de Ironclaw qu'on avait déjà visité dans notre deuxième émission. Nous allons cette fois passer Lightning, à titre toujours tiré de leur compilation de 2009, encore une perle de proto-metal presque oubliée et à écouter absolument. Si vous aimez Ironclaw, vous retrouverez deux doubles singles enregistrés à l'époque et récemment ressortis, mais aussi leur seul véritable album non posthume, A Different Game, sorti en 2011. Un autre artiste à découvrir est Bulbous Creation, qui maintient la tradition des groupes éphémères dont les bandes originales ont ressurgi des années après leur disparition. On a ainsi un quintet blues rock américain du début des années 70, mais qui se dissout avant même de récolter assez de fonds pour faire presser l'album. Qu'à cela ne tienne, puisque les bandes originales restent dormantes pendant 25 ans, jusqu'à ce que Rich Haupt, le fondateur de Rockadelic Records, mette la main sur tout un tas de bandes venues des studios Cavern, où avait enregistré Bulbous Creation. Il publie ainsi une première édition non autorisée en 1995. Les membres survivants du groupe autorisent une réédition officielle en 2011 qui sort chez O Music. Un album redécouvert des tréfonds des studios à découvrir d'urgence. Je vous propose un extrait de You Won't Remember Dying, l'album posthume de Bulbous Creation, avec le morceau Satan. Quoi de mieux pour conclure cette émission spéciale titre enregistré dans une cave qu'un morceau des plus obscurs ? Les seules informations que j'ai viennent d'un commentaire YouTube qui prétend être l'ex-batteur du groupe. On a donc un trio composé de Jim, Mark et Alan qui fonde Astaroth en 1972 dans le Michigan et sort un unique double single chez Adesta Records en 1975. Sur ce vinyle, on retrouve l'obscur proto-punk qu'est Satanis Spiritus. Je vous laisse apprécier ce dernier morceau et vous souhaite une belle fin de soirée sur les ondes de Radio Méga. À dans 2 semaines et encore une fois un grand merci à Quentin pour l'émission. Salut à toutes et salut à tous.